Europe 1. Ondelat raconte. Christophe Ondelat.
Voici une belle histoire, ma foi. Une histoire qui montre qu'avec de la volonté et de la positivité, on peut se sortir de beaucoup de galères. Morgane Raoult est musicienne, clarinettiste. Et à la suite d'un pépin de santé, elle a bien cru qu'elle ne pourrait jamais plus jouer. Mais dans sa tête, jamais n'existe pas. Et elle raconte tout ça dans un livre, « Je ne souffle pas, je chante », sous titre « La belle histoire de Madame Clarinette », livre qui paraît chez Michalon. Elle sera là tout à l'heure. Voici cette histoire qui donne la pêche, et c'était pas gagné. Je l'ai écrite avec Tuc Duhal de Dieu le veut. Réalisation Céline Lebras.
Europe 1, Christophe Ondelat.
Je suis né dans une famille où la joie de vivre est une évidence. Mes parents ont déjà une petite fille et ils attendent un garçon. Ils ont choisi de l'appeler Morgane. Mais à la naissance, je suis une fille. Alors ils m'appellent Morgane. Pour me faire pardonner, je serai le petit garçon manqué de mes parents. L'enfant qui grimpe aux arbres et qui joue au foot et qui n'aime pas les robes et qui déteste les Barbies. Dans ma famille, l'important est de faire ce qu'on aime et d'aimer ce qu'on fait. Mon père est un optimiste positif. Il nous a encouragés à écouter nos envies. Papa, s'il te plaît, tu peux nous raconter une histoire qui commence mal et qui se termine bien ? Il était une fois deux grenouilles qui tombent dans un bidon de lait, tout lisse. Elles se débattent pour essayer d'en sortir. Et la première grenouille, ne voyant pas de solution, capitule. Elle se laisse couler. Mais la seconde refuse d'abandonner. Alors elle agite ses pattes dans le lait pour maintenir sa flottaison. Et au bout de quelques heures, ses battements finissent par transformer le lait en crème. Et la crème en beurre, bien solide. Et d'un grand bond, la grenouille sort du bidon. À côté de ça, ma mère, elle, se donne pour mission de nous prévenir que la vie n'est pas un conte de fées et qu'il y a des dangers. Et elle nous donne des astuces pour les éviter. En cas de guerre, hein, faites semblant d'être morte. Et quand vous prenez le bus, ne traversez jamais devant. Les voitures qui déboulent ne vous voient pas, elles pourraient vous écraser. Traversez toujours derrière. Bref, j'ai grandi dans l'amour. Nous habitons dans le plus beau des endroits. Je veux dire le plus beau humainement. Le quartier HLM de Clermont-Ferrand. Et moi, je partage la cour de récré avec Soraya, Malika, Kamel, Kwok du Vietnam, Babacar et aussi quelques petits Auvergnats. On n'a pas besoin de nous expliquer ce qu'est le vivre ensemble, puisqu'on est bien trop occupé à le faire. L'enfance est l'innocence. Jusque-là. Jusqu'à ce mercredi, dans le terrain vague, en bas de notre immeuble. Ce terrain vague dans lequel ma mère nous interdit d'aller jouer parce que elle ne peut pas nous surveiller du haut de sa fenêtre. Avec ma sœur et une autre voisine, nous voulons construire une cabane. Une cabane dans le grand cerisier, perché sur les branches. Et on sent vite qu'il est bizarre, le monsieur qui rôde sous notre arbre. Alors, il y a des cerises ? Des cerises. Mais on est en automne. Alors on décide de déguerpir. Mais Caroline et Isabelle sont au pied de l'arbre, alors que moi je suis perché tout en haut. Elles descendent, elles enfourchent leur vélo et elles filent. Mais moi, mon petit vélo orange est coincé dans les ronces. Je tire sur le cadre, mais je me griffe avec les épines. Et là, l'homme m'attrape le bras. Il se colle à moi. Il descend son pantalon. Je veux bouger, mais je peux pas. Je veux crier, mais je peux pas. Il peut faire ce qu'il veut de moi. Et il ne s'en prive pas. Allez, Morgane. Bouge. Bouge. Je voudrais être la grenouille qui se bat. Je crie. Je hurle tout ce que je peux gueuler. Alors il me lâche. De toute façon, il a fini. Et je me sauve, et je cours aussi vite que mes jambes de 6 ans le peuvent, et je veux retrouver maman. Et quand elle ouvre la porte, Elle comprend tout de suite. Ne me touche pas, maman. Je suis sale. Dans les jours qui suivent, j'ai beau me laver et me relaver. Mes parents ont beau m'entourer de tout leur amour. Le dégoût ne me quitte pas. Je fais des cauchemars. Ma mère s'assoit sur mon lit et elle me chante tout doucement. Une chanson douce que me chantait ma maman en suçant mon pouce tous les soirs en m'endormant. Dis Morgane, pourquoi tu suces plus ton pouce? C'est parce que j'ai grandi. Un dimanche après-midi, on leur a donné des invitations, mes parents m'emmènent à un concert à l'opéra municipal. Oh, la première partie, c'est long, long, beaucoup trop long. Et puis mes parents m'ont obligé à mettre une robe et des collants qui grattent. À l'entracte, je vais retirer mon collant dans les toilettes et je retourne m'asseoir pour la seconde partie. Le rideau se lève, le chef arrive, et puis... un clarinettiste fait son entrée. Je n'ai jamais rien entendu d'aussi beau. La douceur de cet instrument. Je glisse tout de suite dans une sensation de bien-être. Le velouté de la clarinette est une caresse. Et je sens des larmes rouler sur mes joues. Elles me font du bien. Elles me lavent. Et j'ai envie de sucer mon pouce qui retrouve sa place dans ma bouche. Je suis bien. À la fin du concert, je veux absolument aller parler au clarinettiste. Il s'appelle Alain Lancelot.
Monsieur, c'était tellement bon.
Tu veux dire beau?
Non, non. Ça m'a fait du bien de vous écouter, je veux dire.
Eh ben merci. Ça me touche. Tiens, je vais te faire un cadeau. Et là, il sort d'un grand carton... un 33 tours avec dessus sa photo et le titre « Concerto pour clarinette en la majeure » de Wolfgang Amadeus Mozart. Et il écrit quelque chose sur la pochette. « C'est encore mieux d'en jouer, ce disque. Je l'écoute en boucle pendant des mois. J'en connais chaque détail, chaque respiration, chaque nuance. Et je m'imagine que c'est moi qui joue. »
Bonjour monsieur, je m'appelle Morgane et je veux faire de la clarinette.
Le monsieur, chauve avec un air très sérieux, s'appelle monsieur Baster. C'est le professeur de clarinette du conservatoire.
Montre-moi tes dents.
Je lui fais un grand sourire. Je viens de perdre mes deux dents de devant.
Tu pourras commencer la clarinette quand tes dents auront repoussé. On ne peut pas jouer avec un trou dans les dents.
À la rentrée de septembre, mes dents sont là. Le premier cours de clarinette est un mardi. Le mardi restera mon jour préféré pendant toute mon enfance.
Bien. Pose tes dents sur le haut du bec, ok? Tu tends la lèvre inférieure comme si tu souriais. Descends ton menton. Vas-y, souffle.
La sensation est magique. Je sens une bouchée de bonheur m'envahir. Je me sens bien. Et M. Baster, qui a pourtant la réputation d'être sévère, me félicite chaque semaine. Et un jour, je l'entends dire au prof de la salle d'à côté.
« Oh, elle est sacrément douée, hein, la petite. Elle finira à l'Opéra de Paris. »
Je me sens pousser des ailes. « Me voilà au collège. Le vendredi soir, pour me faire de l'argent de poche, je répète avec l'harmonie municipale. Ils rémunèrent les grands élèves du conservatoire. 50 francs. C'est un orchestre constitué d'hommes. Et je découvre cet univers de délicatesse. Ça boit des coups, ça fume des clopes, et leurs blagues ont comme sujet exclusif le sexe.
Alors Morgane, tu mouilles ? Je veux dire, tu mouilles ton hanche ?
Et le tromboniste qui joue derrière moi passe son temps à allonger sa coulisse au maximum pour me la fourrer dans les fesses, et ça fait marrer tout le monde. Et quand nous partons en déplacement faire des concerts, je me surprends à chanter avec eux.
À la salope, va laver ton cul, malpropre, car il est malpropre, tire-lui, car il est malpropre, tire-là.
J'ai 14 ans et j'ai la classe. Après le bac, mes parents sont d'accord pour laisser leur petite hirondelle quitter le nid. Il m'installe dans une minuscule chambre de bonne à Paris. Je rentre au conservatoire et je m'inscris à la Sorbonne en musicologie. Mon nouveau professeur de clarinette n'a pas vraiment les mêmes méthodes que M. Baster. Il nous impose un entraînement quasi militaire. Des heures et des heures de gamme et d'exercices techniques. Il nous traite comme des bêtes à concours, sans négliger aucun détail.
Hé les gars, un bon conseil. Faut pas vous branler, hein, la veille d'un concours. Ça retire la gagne.
Et le soir, après les cours, il me demande de petits services.
Tu veux venir avec moi aux Galeries Lafayette? C'est pour m'aider à choisir un parfum pour ma maîtresse. T'as la même peau qu'elle.
Et une autre fois en cours,
tu sais que t'as le physique pour entrer au Crazy Horse, toi? Un peu comme ma maîtresse, hein, des grandes jambes, des petits seins très hauts. Et je sais pas quoi de sexy.
Je le trouve lourd, mais je ne veux pas me tirer une balle dans le pied. Il nous dit souvent qu'il a le bras très long. Mais ma copine Fred me dit
« T'as pas accepté ça. Faut que tu quittes ce gros con. Si tu veux, on peut envoyer mon frère pour lui foutre un coup de pied dans les couilles pour le calmer, ce connard. »
Elle a raison. Je le quitte pour intégrer la classe d'un merveilleux professeur qui est soliste à l'orchestre de Paris. Son cours est un régal. Et un jour, il me propose de faire un petit remplacement à l'opéra. J'envoie tout de suite une invitation à M. Baster. Et il fait 4 heures de train corail pour venir m'applaudir à l'opéra Bastille. Et à la sortie, il me dit
« Tu sais, je suis capable de reconnaître ton son parmi tous les autres. »
Et me voilà en tournée pour jouer La vie parisienne d'Offenbach. On change d'hôtel tous les jours et on mange au resto midi et soir. J'aime bien cette vie. Et petit à petit, je deviens une cachetonneuse. Je travaille avec plusieurs orchestres. On m'appelle pour des remplacements au pied levé. Je dois déchiffrer des partitions en direct pendant le concert. Mais moi qui aime l'adrénaline, je suis gâté. Et après, je vis un rêve éveillé. Je joue avec les solistes de la Scala de Milan et du Metropolitan Opera de New York, la Flûte Enchantée, les Noces de Figaro, la Bohème, Tosca. Moi qui jusqu'à maintenant les écoutais sur ma chaîne IFI. Et puis un jour, en pleine répétition de la symphonie fantastique de Berlioz, je ressens une douleur aiguë dans la poitrine, à gauche. Une douleur qui me terrasse. Je tombe de ma chaise. Le chef doit interrompre la répétition. On pense que j'ai fait une crise cardiaque. Et moi, je sens quelque chose se déchirer en moi. Une ambulance m'amène aux urgences. Et ma copine Fred m'y retrouve. Et le radiologue nous annonce
« Mademoiselle, c'est un pneumothorax. »«
Un quoi ?»«
Un décollement de la plèvre. Complet. »« C'est-à-dire que votre poumon gauche s'est décollé de la paroi et s'est replié sur lui-même. »«
Vous ne respirez plus actuellement que par le poumon droit. Faut donc faire très vite, hein. Mais enfin, c'est une catastrophe. Elle est clarinettiste, Morgane. Eh bien, il faudra lui dire dorénavant qu'elle était clarinettiste. Il faudra vous trouver un autre hobby, mademoiselle. Mais vous n'avez pas compris. C'est son métier. Ah ben, on est médecin, hein. On n'est pas magicien. Je vois défiler dans ma chambre des copains musiciens. Ils essayent de blaguer, de détendre l'atmosphère. Mais je lis sur leur visage la peine qu'ils ont pour moi de me savoir foutu. Et moi, je pense à Christian, mon ami d'enfance, trompettiste. Il venait d'entrer au conservatoire de Paris. Et il s'est fait un claquage musculaire de la lèvre, une courbature de la lèvre, ça s'appelle. Il n'a jamais plus été capable de sortir le moindre son. Il a cru qu'il pourrait passer à autre chose en se mettant à la guitare. Et puis un matin, il a sauté sous un train. Ma convalescence est longue et douloureuse. Elle est triste surtout. Vous pourrez peut-être un jour ressouffler dans une clarinette, mais pas forcément de la même façon. Il faudra limiter l'intensité et la durée de jeu. Et puis il faudra surtout attendre de ne plus avoir mal. Hein ? Bref, il faudra faire de la clarinette en dilettante. Je passe des semaines prostré dans ma chambre. Et j'évite de regarder mon étui à clarinette. Et puis un jour, je l'ouvre, je la monte, je choisis l'anche la plus faible et je souffle. Et la réponse est nette et sans appel. Douleur immédiate dans la cage thoracique. Alors je l'arrange et je l'enfuis au fond de mon placard. À cette époque-là, une chanson de Barbara s'installe dans ma tête.
Voilà combien de jours, voilà combien de nuits, voilà combien de temps que tu es reparti. Tu m'as dit cette fois, c'est le dernier voyage pour nos cœurs déchirés, c'est le dernier naufrage. Au printemps, tu verras, je serai de retour. Le printemps, c'est joli pour se parler d'amour. Nous irons voir ensemble les jardins refleuris et déambulerons dans les rues de Paris.
Mes parents sont loin dans cette épreuve. Ils vivent au Brésil depuis quelques années. Dès que ma santé le permet, je pars les retrouver, bien décidé à me recharger de lumière et d'amour. Mais au milieu d'une baignade dans les vagues de l'océan, mon poumon droit se déchire à son tour. Ma sœur me sort de l'eau à bout de bras et à l'hôpital, les médecins m'expliquent. Il faut vous réopérer. Il vous reste que le poumon gauche pour respirer. Et il est fragilisé par le premier pneumothorax. Nous pouvons vous opérer, mais il faut réunir 30 000 dollars. Mes parents mettent 48 heures à réunir la somme en faisant jouer les assurances. Et la plèvre est recousue. Me voilà de retour à Paris. Et un soir, Fred, mon ange gardien, m'emmène à un concert klezmer. C'est de la musique yiddish. Un vieux monsieur arrive sur scène, il a sa canne dans une main et sa clarinette dans l'autre. Et sa clarinette sonne comme une voix humaine, je n'en reviens pas. Il donne une telle vie à son instrument. J'ai besoin d'aller l'embrasser.
Tu veux connaître mon secret ?
Oui, bien sûr.
Je ne souffle pas dans ma clarinette. Je chante.
Quand j'arrive chez moi, je déterre mon étui de clarinette au fond du placard. Je sors une hanche. Je la rabote avec une lame de rasoir pour la rendre la plus fine possible. Je la porte à mes lèvres. Je ne ressens aucune douleur. Et mon son est très doux, très fin. Et c'est comme ça qu'au bout de quelques mois, avec Fred qui est harpiste, on monte un petit programme de musique douce qu'on va jouer dans les maisons de retraite du coin. Et là, dans les sourires édentés, les yeux humides des résidents, je reconnais le pouvoir magique
de la musique. Je reprends mon poste de prof au conservatoire de Saint-Ouen et j'arrive à tenir comme ça, une année. Et je décroche aussi ma maîtrise de musicologie à la Sorbonne, en juin. Je revis. Et l'été arrive. Avec Fred, nous partons en Auvergne pour le mariage d'une amie d'enfance. Et tous les copains sont là avec leurs instruments. Et on se lance dans un bœuf endiablé. Quel plaisir de rejouer ensemble, comme au bon vieux temps. Et là, je sais pas ce qui me prend. Je me sens immortel, sans doute. J'accepte la cigarette qu'un copain m'offre au moment du digestif. Et à peine écrasé, je m'écroule. Mon poumon droit se décroche à nouveau. Heureusement, une sommité régionale de la pneumologie est là. T'as de la chance. J'ai pas trop bu. Je vais m'occuper personnellement de toi. Et cet homme me sauve. Il accepte de procéder à une opération exceptionnelle. Les deux poumons en même temps. Un mois d'hôpital, la perspective d'une rééducation longue. Mais il me dit que mes poumons sont désormais indécollables. Tes poumons, Morgane, ils sont solides comme du béton. Et depuis, mes poumons ne m'ont jamais plus lâché. Ils ont perdu en capacité et en souplesse, mais ils ne m'ont pas lâché. La musique ne me quittera jamais. Je ne joue jamais trop longtemps et j'arrête au moindre signe de douleur. Mais je joue. J'ai rencontré Thomas, un flûtiste surdoué, artiste jusqu'au bout des doigts. Il est farfelu, il ressemble à Roberto Benigni. Et son grain de folie me touche. Et 6 mois après mon opération, je porte la vie en moi. Dans mon ventre s'est nichée ma capucine. Elle voit le jour en automne. Et elle transforme ma vie. Que c'est fort de devenir mère. Et Capucine m'inspire des chansons que je lui fredonne. Dis-moi, Morgane, elles sont super belles, tes chansons. Tu devrais les enregistrer. Et c'est comme ça que je produis dans un petit théâtre parisien mon premier spectacle pour enfants.
Aïe, 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 dans ma chaussure. Oui, 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 dans ma chaussure. Qu'est-ce qu'il y a dans ma chaussure? Je n'en suis pas vraiment sûr.
Et puis je tombe enceinte de mon deuxième enfant, Léonard. Et je n'arrête plus de composer des chansons. Je n'ai jamais travaillé ma voix. J'ai la voix d'une maman. D'ailleurs, le directeur d'une maison de disques me dit un jour: « Vous avez une voix, Morgane, qui décomplexe. » Et quand je joue mes spectacles, je ne monte jamais sur scène sans ma clarinette. Je me souviens, un jour au Sénégal, je joue dans une école, et au milieu d'un morceau de Mozart, les enfants se mettent à frapper dans les mains, et l'instituteur attrape un djembé. Et à la fin du spectacle, les gamins s'écrient en chœur « Vive Madame Clarinette !» Et ce surnom me suit à mon retour en France. Et voilà. Morgane Raoult, cette histoire tirée de votre livre « Je ne souffle pas, je chante » qui paraît aux éditions Michalon. Est-ce qu'à la fin de cette histoire, on peut dire que vous êtes heureuse, Morgane ?
Ah oui, 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 je peux dire que je suis heureuse, oui.
Plus que si vous étiez première clarinette à l'Opéra de Paris ou à l'Orchestre National de France ?
Ah, ça, je ne le saurais jamais, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je suis heureuse et que j'ai aucune frustration de ne pas terminer
un parcours,
voilà, c'était pas le but finalement qui était important, c'était sûrement le chemin, voilà.
Parce que peut-être que finalement le système de la musique classique, vous avez fixé un objectif de musique classique, s'asseoir sur un pupitre au milieu d'un orchestre, et finalement vous avez une autre vie de musicienne que celle-là.
Oui, c'est vrai, mais je ne peux pas non plus nier le fait que ce qui me touche le plus en musique, c'est la musique classique. Et quand j'entends le son d'une clarinette qui sort par-dessus tout l'orchestre symphonique, ça me donne des frissons énormes. Et là, tout à l'heure, vous avez choisi un extrait de la Tosca où on entend le solo de clarinette qui passe en même temps que le chanteur. Je trouve ça magnifique.
Le concerto pour clarinette de Mozart, qui est donc l'œuvre majeure pour le tube de tous les clarinettistes, est-ce que vous le jouez encore ?
Oui, alors le concerto pour clarinette de Mozart, je le joue encore dans ma chambre.
Ouais.
Et en revanche, voilà.
Pas en public.
En tout cas, ce qui est très drôle, c'est que j'ai mis un extrait de ce concerto dans à peu près tous mes spectacles. Donc oui, je le joue, mais en tout cas, je ne joue pas les trois mouvements et d'une forme plus légère, juste accompagnée par une pianiste.
Voilà, donc c'est plus doux, quoi.
C'est plus doux, c'est ça.
C'est moins démonstratif.
C'est exactement ça, c'est la clarinette plus light.
Est-ce qu'on peut dire que c'est la musique klezmer qui vous a sauvé de la dépression ?
Alors, bien sûr, la musique klezmer, ça a été formidable parce que j'ai compris que, en fait, le souffle qu'il fallait mettre dans la clarinette, la pression qu'il fallait mettre dans une clarinette, en tout cas pour jouer le répertoire classique, eh bien, c'était pas tout à fait le même, même carrément pas le même pour jouer de la musique traditionnelle.
Donc la musique klezmer, on le dit, parce que c'est de la musique juive.
C'est la musique yiddish,
qui vient des Ashkenazes, en fait, hein,
des
peuples d'Europe centrale.
C'est ça, et en fait, c'est la musique. Ils emploient la clarinette avec beaucoup de naturel. C'est presque de la voix humaine, et en fait, ça demande finalement beaucoup, beaucoup moins de pression d'air à mettre dans la clarinette.
Qui vous a finalement. Soigner de la dépression, est-ce que c'est ce monsieur qui vous ouvre donc les horizons de la clarinette klezmer, ou est-ce que c'est la naissance de vos enfants ?
Alors,
Les deux, mon général,
mais je crois bien que je n'étais pas au bord de la dépression. Je pense que j'étais au bord de la grande tristesse de devoir renoncer à ma passion. Mais j'ai vraiment eu une enfance tellement positive, des parents tellement positifs.
Vous n'étiez pas en dépression ?
Non, j'étais triste, mais pas en dépression.
Donc, ce qu'on croit comprendre, c'est que ça vous vient au fond de votre père. Il vous a insufflé ce que vous appelez un optimisme positif.
Oui.
De lui, hein, surtout de lui.
Oui, alors, mes deux parents sont positifs, mais mon père, c'est un optimiste. C'est jamais foutu avec lui. Tant qu'il y a de la vie, on vit. Il trouve des solutions. C'est un homme qui trouve des solutions. Et moi, j'ai grandi avec ça. Et ce qui fait que chaque malheur. On l'accepte, enfin non, on l'accueille, on l'accepte pas toujours.
On le pose.
Et après, on cherche des solutions. Enfin, en tout cas, je crois que c'est ce qu'il m'a transmis. Et puis ma mère, elle, ce qu'elle m'a transmis, c'est elle a pas.
Elle est moins bénie, oui.
Oui, puis elle est pas dans la compétition, donc c'est pas grave, ma chérie, tu seras pas championne du monde de clarinette, mais
mais tu seras heureuse quand même.
Et tu seras heureuse, voilà.
Est-ce que c'est ce mécanisme qui fonctionne lorsque, à l'âge de 6 ans, vous êtes violée?
Alors, à l'âge de 6 ans, en fait, ce qui m'a aidée, c'est l'amour de mes parents. Mais ce qui m'a aidée aussi, c'est justement, je me suis jetée dans une passion. Et je crois que c'est surtout ça. Et autour de moi...
C'est la musique qui vous soigne du viol.
Oui, la musique, en tout cas, fait que quand je joue, je suis heureuse, je suis bien, je supporte de nouveau la tendresse. Voilà, je peux redevenir celle que j'étais. Et en fait, je pense vraiment que... D'avoir une passion, d'avoir quelque chose qui nous remplit, ça peut colmater des choses abîmées.
Parce que vous savez qu'on est dans une société où le discours, j'ai envie de dire, de plus en plus dominant, et qu'on ne peut pas se remettre d'un tel événement à l'âge de 6 ans, que d'une certaine manière, quand on a été violé à 6 ans, la vie est foutue. Or, ça n'est pas exactement ce que vous semblez dire.
Alors, moi, je me garderais bien de faire des généralités, parce que j'ai autour de moi des exemples de
gens qui ont
de vie dramatique. Et moi, déjà, la chance que j'ai eue, c'est que c'était pas intrafamilial. C'est-à-dire, pour moi, en fait, ce que j'ai vécu, c'est plutôt une agression. C'est dans le sens où j'ai eu peur de mourir, et plus que mon intégrité physique. Mmh. Voilà, pour moi, le plus grand choc, c'est que je me suis fait piéger par un inconnu et j'ai eu plutôt peur de mourir. Alors que j'ai autour de moi des femmes qui ont vécu l'atrocité de l'inceste ou de la répétition des viols. Ça, c'est un enfermement qui doit être terrible. Moi, la chance que j'ai eue, c'est que c'était un inconnu et que...
On l'a jamais arrêté.
Non, mais j'ai été plusieurs fois au commissariat pour essayer de
l'identifier.
Et à l'époque, c'était quand même vache parce que on me mettait face à des hommes sans vitre teintée. C'est-à-dire, j'étais et je vais dire si c'était lui ou pas. Vraiment, aujourd'hui, la police a fait des progrès énormes et on fait plus ça à un enfant. Quoi.
C'était début des années 80.
C'était à la fin des années 70.
Ouais. Est-ce qu'on peut résumer les choses comme ça? Ce viol et le traumatisme qui est allé avec, vous l'avez posé et vous avez tracé votre vie.
Oui.
C'est comme ça Boris Cyrulnik définit un peu ce qu'est la résilience. C'est-à-dire, on peut poser et marcher.
Oui, après, je ne dis pas que... J'en sais rien. Si ça se trouve, j'ai l'impression que d'aller très bien et j'ai peut-être des gros problèmes que je ne veux pas voir. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que... D'abord, mes parents ont vraiment été très enveloppants. À l'époque, les psys, je les ai trouvés franchement pas à la hauteur. Mais ce qu'il y a aussi, c'est ce que je dis, c'est que je ne sais pas ce que ça veut dire d'aller bien, mais ce que je sais, c'est que, et Cyrulnik qui dit ça aussi, s'il y a un petit brin d'humanité chez quelqu'un, il peut se reconstruire. Et moi, de l'humanité, j'en avais beaucoup.
Autour de vous, à travers vos parents.
Oui.
Alors, c'est donc la musique qui va venir soigner ça comme une sorte de pansement. Et j'ai une curiosité, c'est si vous étiez allé voir un concert de saxophone ou de violoncelle, vous auriez pu probablement avoir le même élan.
Ah, peut-être. En tout cas, la magie, c'est que j'ai entendu ce son dans un cadre aussi. J'étais au théâtre.
Parce que vous connaissiez rien à la musique classique, c'était pas l'éducation de votre famille aussi.
Non. En tout cas, chez nous, c'était plutôt du Brassens. Mon père s'est intéressé à la musique classique une fois que j'ai eu l'impression que chez moi, les disques de musique classique, il y en a eu à partir du moment où j'ai commencé le conservatoire.
D'accord.
Après, j'ai embarqué tout le monde. Ma sœur en a fait aussi, mon frère. Donc, on s'est mis à écouter.
Donc, est-ce que la clarinette, en fait, avait une attirance particulière ou est-ce que vous dites que c'est doux, mais un très beau morceau de violoncelle, une suite de Bach, ça peut faire le même effet.
Bah, peut-être, mais alors, je crois que la clarinette, ça correspond aussi à quelque chose qui me fait vibrer. Et c'est assez proche de la voix humaine, déjà. Et puis, on souffle. Et ce souffle, en fait, j'entendais le clarinettiste jouer, mais j'entendais aussi son souffle qui venait jusqu'à moi. Et une fois que j'ai compris que, en fait, ce souffle, c'est ce qui faisait le son, je crois que c'est aussi ce que je ressentais de
apaisant.
Si apaisant.
Ben oui, parce que le souffle passe par le diaphragme, et donc il y a un effet physique.
Mais c'est incroyable. On devrait vraiment prescrire des instruments avant à tous les enfants, parce que ça...
C'est anti-stress.
C'est un anti-stress. Le chant, c'est déjà très très bien, mais alors la trompette, la clarinette, c'est...
Alors Morgane, j'ai noté, évidemment ça a tiré mon oreille, à votre arrivée à Paris, un regard assez critique sur l'enseignement de la musique au niveau supérieur. Vous êtes, je suppose, vous ne le dites pas, au Conservatoire de Versailles, c'est ça?
Alors là, en tout cas, la citation
un entraînement quasi militaire où on ne traite comme des bêtes à concours.
Oui, alors c'est pas Versailles, c'est une autre
conservatoire
parisien. Et comme je veux absolument pas détruire l'image
de ce conservatoire, vous donnez pas de
professeur.
Vous êtes critique sur cette manière d'enseigner, manifestement.
Oui, en tout cas, ce que je sais, c'est que j'ai eu plusieurs professeurs. J'en ai eu vraiment deux qui étaient formidables, Monsieur Bastère et puis. Philippe Olivier Devaux,
de l'Orchestre de Paris.
Ouais, qui est formidable. Et puis au milieu, j'en ai eu un qui était, en tout cas, il était bien parce que techniquement, il nous donnait on était vraiment très forts au niveau de la technique de l'instrument. Ça, on mangeait des heures de gamme. Mais je trouve que c'était, pour moi, c'était pas un artiste. En tout cas, il n'allait pas chercher chez nous le côté artistique, mais plus, c'était comme un entraîneur de sportif, quoi.
Et là, on tombe sur quelque chose de très intéressant, c'est est-ce que ces gens-là, qui sont donc des professeurs de musique classique, et qui vous obligent à un entraînement technique, les gammes, les exercices, etc., auraient été capables de vous indiquer qu'en chantant dans la clarinette, au lieu de souffler, il y avait une issue pour votre maladie?
Non. Non, ils savaient pas. Non, parce qu'au contraire, tous les profs de conservatoire que j'ai eus, vraiment, ce qu'il fallait, c'était envoyer de la pression, envoyer de l'air. Allez, vas-y. Et c'était vraiment une force. Ça comprime beaucoup quand on joue dans la clarinette, quand on souffle. Comme il y a une toute petite sortie d'air.
On n'a pas expliqué, parce que vous ne le dites pas, ce qu'est une hanche, c'est donc un petit morceau de bambou, de bois.
Oui, l'hanche,
vibre, c'est elle qui fait le son.
C'est ça. Et en fait. Au conservatoire, en tout cas, surtout à l'époque, l'époque, c'était vraiment la mode des sons puissants. Mais aujourd'hui, la nouvelle génération des profs, il y en a vraiment qui ouvrent leurs élèves vers le jazz ou vers la musique traditionnelle. Donc, et moi, j'ai plein de copains profs qui font des trucs extraordinaires avec leurs gamins, avec leurs élèves. Mais de mon temps, c'est vrai qu'il ne fallait absolument pas improviser une autre technique, la technique ouais. académique.
Donc le gouffre, vous dites, c'est un peu comblé entre la musique classique et cette musique klezmer qui est populaire, en vérité.
Oui, oui, oui. Oui. Et puis, c'est un petit peu comme quelqu'un qui prendrait des cours de chant lyrique pour chanter de l'opéra, et puis quelqu'un qui se mettrait à chanter de la variété. C'est pas la même technique au niveau de l'air.
C'est ce qu'a fait Nathalie Dessay, par exemple, voilà. Et avant elle, personne ne l'avait fait en tant que soprano.
Voilà.
Aujourd'hui, c'est vraiment ce que vous faites aujourd'hui, techniquement. C'est-à-dire que vous chantez vraiment dans la clarinette.
En fait, chanter, ça veut dire que quand je souffle dans ma clarinette, je m'imagine que j'envoie le même air que si je chantais.
Ça ne fait pas vibrer les cordes vocales.
Non. Alors, par contre, si je chante en même temps que je souffle, là, pour le coup, c'est très drôle. Ça fait un double son. Et c'est ce qu'on entend dans la musique klezmer. Par moment, on entend des sons qui sont presque brisés. Ça fait comme ça. Ouais. C'est qu'en fait, on envoie de la voix en plus du souffle. Mais il y a aussi qu'on peut jouer de la musique classique en jouant avec un peu moins de puissance. Il y a plein d'airs classiques que je joue aujourd'hui. Puis je peux en jouer pendant des heures sans me faire mal parce que j'ai adapté ma technique. Et c'est aussi parce que je suis tombée amoureuse d'un flûtiste qui, lui, pour le coup, c'est génial la flûte parce que la flûte, on ne comprime pas l'air.
Oui, on souffle. On est dans le souffle, dans l'élan du souffle.
Voilà, et en le regardant jouer, j'ai compris aussi... j'ai compris plein de choses sur la technique du souffle, voilà. Mais après, si je veux aller jouer les sonates de Brahms, j'aurais pas cette technique-là, ça c'est sûr.
Donc vous avez renoncé définitivement à la scène en tant que musicienne classique.
Oui, mais j'ai pas renoncé à la scène. En revanche,
pour vos spectacles pour enfants,
voilà.
Ça vous continuez.
Oui, c'est vraiment. Mais pour le coup, je crois que j'étais née pour être passionnée parce que je suis vraiment passionnée par.
Vous êtes passée d'une passion à l'autre.
Ouais, en tout cas, la passion de la musique. C'est ce qui fait le pont entre les deux, et la clarinette, parce que je continue à en jouer. Mais j'aime vraiment, vraiment écrire et chanter des chansons pour enfants et leur transmettre mon amour pour la musique. Quoi.
Une sorte de Chantal Goya plus intimiste.
Alors, non, parce que...
fallait que je la sorte.
Non, mais pourquoi pas. Mais moi, je me sens beaucoup plus une enfant de Anne Sylvestre.
Eh oui.
Anne Sylvestre, voilà, c'était mon idole enfant du côté des chansons pour enfants.
Donc on a pleuré tous les deux quand elle est morte.
Ah oui, beaucoup. Ouais. Je venais juste, en plus, d'aller l'écouter à La Cigale. Voilà. Donc, moi, le plus beau compliment qu'on puisse me faire, c'est quand les parents m'envoient des mails en me disant...
Vous êtes la successeure d'Anne Sylvestre.
Il y a un petit truc d'Anne Sylvestre chez vous. Ouais.
Je rappelle le titre de votre livre, Morgane Raoult. « Je ne souffle pas, je chante », qui paraît aux éditions Michelon. Merci beaucoup.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.